espérer être là demain. Vous comprenez pourquoi ? Puisque demain, on fête Saint Polycarpe. Alors, ça aurait été une grande joie de fêter Saint Polycarpe avec vous. Et puis, on est devant un conditionnement qui vous détermine. C'est-à-dire qu'on est en situation limite. En raison du conditionnement, vous comprenez, puisque j'obéis à ceux qui organisent les cours. Il faut bien. Je suis obligé de repartir ce soir pour donner le cours demain matin à 7h30, puisque à Saint-Jodard, pour les novices, on se lève tôt. Métaphysiquement parlant. Premier cours, 7h30, de métaphysique, c'est pour ça. Ça, on se lève tôt. Avant, il y a l'oraison, c'est sûr, et puis il y a l'autre. Alors, je crois que, à cause de la conférence ce soir, il n'y a donc pas d'office pour Saint Polycarpe. Je crois qu'il faut donc commencer par lire ce que normalement vous auriez eu ce soir comme lecture sur Saint Polycarpe. Donc tous les saints Polycarpes, vous voyez bien, il y en a un qui est chef de file, et puis il y a tous les autres qui courent par derrière. Si ça ne peut pas être autrement, ils sont tous pris par le même zèle et le même amour. Alors je crois qu'il faut que nous disions notre cher père Polycarpe, qu'on priera beaucoup demain pour qu'il soit comme son patron. Cette situation extraordinaire, disciple de Jean, et puis Saint Irénée, disciple de Polycarpe, c'est pas mal. Cette trilogie, Jean, Polycarpe, Irénée. Irénée doit être lié à Saint Polycarpe. C'est Lyon, c'est aussi pour nous très cher. Autun et Lyon, ça doit être dans notre cœur d'une façon spéciale. Alors il faut que demain dans la prière, moi je peux le dire, vous priez spécialement pour votre prieur, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour vous. C'est pas commode d'être un jeune prieur avec des novices profs et âgés. Vous voyez, âgés, pas selon l'âge, mais de temps en temps, fatigués, quoi. C'est ça que je vais dire, âgés. Parce que si c'était tous jeunes de cœur, ça irait très très bien. Mais je crois que ça va quand même très très bien, tu vois. Ça va très très bien. Et il n'y a qu'à demander au Seigneur que ça aille de mieux en mieux. C'était le grand souhait, vous voyez, puisque le chapitre est décidé de laisser ici à Rimont le point de vue du couvent de formation et à Saint-Jodard l'autre. Ça prouve qu'en face de Dieu, c'était bien. Et on peut toujours aller plus loin. On peut aller toujours plus loin, et aller plus loin, c'est supplier l'Esprit Saint et la Vierge Marie et Saint Polycarpe et Saint Jean de sanctifier notre prière pour qu'il soit encore plus saint. Vous allez me dire, pire, alors qu'est-ce qu'on va recevoir sur le dos? C'est vrai, plus il sera saint, plus il sera exigeant. Mais il sera exigeant dans une exigence toute maternelle et paternelle. Ce qu'il est, du reste, mais il le sera encore plus. Alors, lettre de l'église de Smyrne sur le martyr de Saint Polycarpe. Lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe enleva lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Puis il voulut se déchausser lui-même. Il ne le faisait pas auparavant, parce que Chacun des fidèles s'empressait toujours pour être le premier à toucher son corps même avant son martyre. Il était toujours entouré de vénération à cause de la sainteté de sa vie. Et l'ombre de Jean qui se prolonge sur Polycarpe. Aussitôt donc, on plaça autour de lui les matériaux préparés pour le bûcher. Comme on allait l'y clouer, il dit « Laissez-moi ainsi. Celui qui me donne la force de supporter le feu me donnera aussi, même sans la garantie de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » On ne le cloua donc pas, mais on l'attacha. Ainsi ligoté, avec les mains ramenées derrière le dos, il était comme un bélier de choix pris dans un grand troupeau pour être offert en sacrifice, holocauste préparé pour être agréable à Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé et béni Jésus le Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je te bénis parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure pour que je prenne part dans la troupe des martyrs à la coupe de ton Christ en vue de la résurrection du corps et de l'âme à la vie éternelle dans l'immortalité donné par l'Esprit Saint. Je souhaite d'être admis aujourd'hui en ta présence avec eux comme un sacrifice riche et agréable, ainsi que tu l'avais préparé et manifesté d'avance, ainsi que tu l'as réalisé, Dieu sincère et véritable. Aussi je te loue pour toutes choses, je te bénis, je te glorifie par le grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé. Par lui, gloire à toi, à lui et à l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles futurs. Amen. Quand il fait monter cet Amen et achever sa prière, les hommes du feu allumèrent le brasier. Une grande flamme brilla et nous avons vu une merveille, nous à qui il fut accordé de le voir et qui avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Le feu présenta la forme d'une voûte, comme la voile d'un navire gonflé par le vent qui entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Celui-ci était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, ou comme de l'or et de l'argent étincelant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum pareil à celui d'une exhalaison d'encens ou d'un autre aromate précieux. On va dire qu'on souhaite hein, pour notre Père Prieur quelque chose de semblable. On ne sait jamais, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne pense, vous savez bien. Mais on doit tous intérieurement, je dis bien, on doit tous intérieurement souhaiter le martyr. Je crois. C'est normal. On ne demande pas explicitement au Seigneur de martyr. S'il nous en donne la grâce, c'est très bien. C'est magnifique. Le chrétien est fait pour le martyr, ça c'est sûr. Et au fond, je crois qu'il faut que nous demandions cette grâce, qui est la grâce de la vie religieuse du reste, le quotidien morior, mourir tous les jours à petit feu pour être totalement donné et aller jusqu'au bout du don. Alors sans explicitement souhaiter le martyr de cette manière, Saint Polycarpe, demandez au Seigneur d'avoir une âme de martyr, de témoin, et que le feu intérieur de l'amour divin, qui est victorieux de tout, nous brûle jusque dans notre sensibilité, que nous soyons totalement purifiés par cet amour. Alors nous allons continuer, je crois que c'est en continuant, on se prépare encore, et donc on reste dans le climat du feu, puisque c'est une flamme d'amour. Donc, on reste bien dans cette lumière que nous devons essayer de comprendre de plus en plus. Vous vous souvenez, nous étions à la deuxième strophe, et je relis pour que nous puissions bien voir. N'essayez surtout pas de vivre matériellement ce que Saint Jean de la Croix a dit. Hein. Parce qu'alors, ce serait complètement désastreux. Et Saint Jean de la Croix ne serait pas content du tout. Saint Jean de la Croix nous donne cela, non pas pour qu'on l'imite, mais pour qu'on ait soif d'être conduit par l'Esprit Saint. C'est très différent. Qu'on ait soif que l'Esprit Saint fasse de chacun d'entre nous des enfants bien-aimés du Père. Et l'action de l'Esprit Saint, le Père de Haut aimait beaucoup de dire ça quand il parlait de Saint Jean de la Croix. L'action de l'Esprit Saint aujourd'hui n'est plus la même parce que Marie est donnée d'une manière plus explicite encore. Et donc par Marie, tout prend une modalité beaucoup plus cachée, beaucoup plus simple. C'est la petite voix de la petite Thérèse. C'est vrai, la petite Thérèse est une petite enfant de Saint Jean de la Croix. Il n'en a pas beaucoup comme ça. Et pourtant, c'est tellement différent. C'est tellement différent. Quand la Vierge Marie est très présente dans une vie, alors elle prend de l'intérieur en simplifiant tout. Parce que ce qui est dit, vous comprenez bien, ce n'est pas l'amour. On sera jugé sur l'amour. Et la sainteté, c'est substantiellement l'amour. Ce ne sont pas les effets de l'amour. C'est ça qui nous trompe tout le temps, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement bloqué par le point de vue psychologique que nous faisons la confusion entre ce que nous pouvons ressentir et le mystère, le vécu et le mystère. Ce que nous ressentons psychologiquement quand nous disons « Oh, ce matin, j'ai fait une bonne oraison. » Qu'est-ce que ça veut dire? Aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'à la place de dormir, vous êtes resté éveillé, à la place d'avoir de la peine, de rester tourné vers le Christ, tourné vers le Père. L'Esprit Saint vous a porté, vous a aidé, et vous avez eu l'impression d'être porté d'une présence qui prenait tout. Et vous n'êtes donc pas obligé de recommencer plusieurs fois des actes d'adoration, des actes de désir. Il n'y a plus qu'un seul acte, un acte d'amour de l'intérieur. Alors quand il y a ça, vous dites « j'ai fait une bonne oraison ». Vous jugez sur les effets. Je comprends très bien. Dieu fait ça de temps en temps pour nous. C'est des grâces de novice. Comme on est toujours novice du Saint-Esprit, on peut toujours dire au Saint-Esprit, vous savez, je suis un petit novice dans l'oraison. Et on est tous des novices dans l'oraison. Et donc, traitez-moi en petit novice. Vous savez ce que dit saint Thomas à propos de la jeunesse. Il dit, quand il considère qu'une des dimensions de la sainteté de saint Jean, c'est la jeunesse, il dit, quand aux jeunes, on peut manifester sa tendresse d'une manière plus directe, à ceux qui sont plus âgés. C'est très joli. Parce que ça fait comprendre justement ces grâces de jeunesse, ces grâces où l'Esprit Saint peut agir. Mais quand l'Esprit Saint nous conduit en père, en adulte, alors il demande des sacrifices, de ne plus ressentir son action, comme si il n'y avait plus aucune action de l'Esprit Saint. C'est vrai, le travail du Saint-Esprit, c'est toujours un peu un travail de taupe, vous savez. Et la taupe, on s'aperçoit qu'elle est là à cause des effets. La terre est un peu secouée. Il y a une taupe là derrière. Et c'est vrai que le passage de l'Esprit Saint, ça se voit par les effets. Le passage de l'Esprit Saint, nous ne le saisissons pas. La foi, qui est un radar divin, n'arrive pas à saisir le passage de l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est ça qui est extraordinaire, le mystère de la foi. Cette espèce d'état de mort dans lequel l'Esprit Saint peut nous mettre. Mort quant à notre intelligence, mort quant à notre sensibilité, mort quant à notre cœur. C'est une mort. L'Esprit Saint peut très bien nous faire vivre ça comme ça. Et l'Esprit Saint peut aussi nous donner cette impression très forte de l'action de l'Esprit Saint en nous, de son action d'amour. Il peut nous faire vivre de la présence. Mais tout ça, ce sont des effets. La grâce, la foi seule adhère à la substance du mystère. C'est la foi seule et l'espérance, les vertus théologales. Du Saint-Esprit, c'est par rapport à l'exercice des vertus théologales, le vécu des vertus théologales. Et ceci est en vue de la croissance des vertus théologales. Et les vertus théologales impliquent cette nudité absolue pour qu'on vive du mystère, pour qu'on soit en dépendance totale du mystère, pour qu'on soit face au mystère. Alors comprenons bien ce que nous dit Saint Jean là, c'est merveilleux. Il faut aimer ces passages de Saint Jean de la Croix. Il faut les relire de temps en temps. Ça nous aide. C'est pour ça que Dieu a voulu que Saint Jean de la Croix ait ce cerveau sapientiel pour pouvoir nous dire ce qu'il a vécu de l'Esprit Saint. Pour que nous comprenions mieux comment l'Esprit Saint nous appelle. Mais cet appel de l'Esprit Saint, ces gémissements de l'Esprit Saint, c'est pas encore le mystère. Ô brûlure, fine suave, ô plaie délicieuse, ô douce main, ô touche délicate, qui a la saveur de la vie éternelle, qui donne la mort et change la vie et change la mort en vie. Je vous rappelle, la brûlure est attribuée à l'Esprit Saint, la main au Père et la touche au Fils. Or l'âme glorifie dans cette strophe le Père, le Fils et l'Esprit Saint en exaltant trois insignes faveurs et trois biens dont ils l'enrichissent. Parce que en changeant sa mort en vie, ils l'ont transformé en eux-mêmes. Donc c'est l'action de l'Esprit Saint au plus intime de l'âme. Et cette action de l'Esprit Saint au plus intime de l'âme se traduit dans ces effets divers qui nous aident à mieux comprendre ce qu'est la source cachée, c'est-à-dire l'Esprit Saint au plus intime de nous-mêmes. Je continue donc à propos de qui paie toute dette. C'est par les souffrances que Dieu leur inflige, ainsi qu'à leur sens, des temps abreuvés d'amertume. Elles acquièrent passion qu'elle s'aguerrit. Ce n'est pas par son intelligence que l'artisan pourra préparer le fer et s'en servir, mais bien par le feu et le marteau. C'est ce que dit Jérémie, qui voulait se servir du feu à l'aide de son intelligence. Le Seigneur a envoyé du feu dans mes os, et il m'a instruit. Il ajoute en faisant allusion au marteau, vous m'avez châtié, Seigneur, et j'ai été instruit. Voilà pourquoi l'ecclésiastique dit, celui qui n'a pas été tenté, que peut-il savoir? L'homme qui n'a pas d'expérience connaît peu de choses. Vous voyez, on voit très bien le réalisme de saint Jean de la Croix par derrière, le disciple de saint Thomas. Alors c'est très beau de voir ça. L'expérience. Quand on est conduit par l'Esprit Saint, l'expérience d'hier ne peut pas être celle de demain. Et vouloir revivre l'expérience de la veille, c'est une perte de temps et un repli sur soi. C'est la tentation. Marie, après la mort de Jésus, n'a pas vécu des souvenirs audiovisuel. Non, elle n'a pas vécu des souvenirs. Elle a vécu du mystère. C'est tellement important pour nous, ça. Parce que quand on vit du souvenir, on vit du déjà vu. Et le déjà vu est immanent à nous-mêmes et n'est pas la transcendance du mystère. C'est pour ça, quelquefois, que Dieu nous met dans certaines aridités. C'est pour que nous mettions davantage l'accent sur l'objectivité divine, transcendante, des vertus dialogales. On a tellement de peine de vivre des vertus dialogales dans notre monde d'aujourd'hui. Puisque nous sommes plongés dans le déjà vu. Nous sommes plongés dans le psychologisme. Et ce psychologisme nous empêche d'avoir un exercice divin des vertus dialogales. Alors il faut bien saisir cela, parce que c'est très fort. Vous voyez, pensez toujours, quand saint Jean de la Croix parle, pensez à Marie. Pensez à vous, puisque ça nous dépasse tous. Mais vous pensez au cœur de Marie. Alors quand on pense au cœur de Marie, c'est plus gênant du tout, parce qu'on sait que c'est pour nous. C'est ce que notre mère a vécu. Et elle a vécu plus. Elle est restée dans le silence. Marie n'a pas eu le sermon sapientier, comme saint Jean de la Croix. Et Marie n'a pas eu pour que saint Jean de la Croix l'ait. Vous voyez les effacements de la mère en face de son enfant. Pour laisser l'enfant parler, l'enfant nous instruit. Mais derrière, il y a le mystère de Marie. Et c'est Marie qui vit l'Esprit Saint. Et qui vit dans cette simplicité absolue de l'Esprit Saint. Parce que c'est encore plus simple que ce que dit saint Jean de la Croix. Quand ça passe par le cœur de Marie. Et là, vous rejoignez ce que dit le Père de Haut. C'est quand Marie est là, or Marie nous est donnée dans cette fin du XXe siècle d'une manière très forte. Se simplifie. Nous devons expliquer le motif pour lequel il y en a si peu qui parviennent à cet état élevé de perfection, de l'union avec Dieu. Or, sachons-le bien, ce n'est pas parce que Dieu veut restreindre le nombre de ses âmes privilégiées. Son désir est voyez une légère épreuve, qu'ils les trouvent faibles. Ces âmes fuient la souffrance, elles ne veulent pas supporter le moindre chagrin, ni la moindre petite mortification. Elles ne souffrent rien avec patience. Aussi, le Seigneur ne les retrouvant ni fortes ni fidèles. Aussi, le Seigneur ne les trouvant ni fortes ni fidèles pour accomplir le peu que par miséricorde il leur demande pour les purifier et les perfectionner. Constate que ces âmes le seront beaucoup moins dans des circonstances plus sérieuses. Aussi ne contiennent-ils plus à les mortifier pour les faire avancer dans la perfection et les élever au-dessus de la poussière de la terre. Ces âmes ont manqué de cette constance et de cette énergie qu'elles auraient dû montrer. Alors ça, Jean de la Croix souligne là quelque chose qui pour nous est très important. C'est la question de la fidélité. La fidélité aux grâces reçues. Quand on est marqué par le Christ, marqué par la vocation, quand on est marqué par le Christ, il y a cette exigence de fidélité. Autrement, quelque chose se dégrade. On perd ce qu'il y a de plus précieux en nous. C'est déjà dit, ça m'a toujours beaucoup frappé, cette réflexion de certains pères plus âgés. En disant, quand j'étais jeune, Saint Jean de la Croix, je l'aimais beaucoup. Alors quand on arrive à 50 ans, oh, quand je dis Saint Jean de la Croix, c'est lui qui disait ça. Quand je dis Saint Jean de la Croix, ça ne me dit plus rien du tout. Ça me semble très imaginatif. C'est terrible. Quand il était jeune, Saint Jean de la Croix lui disait quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui-même, il était en connaturalité avec cela. Et c'est vrai, nous sommes tous en connaturalité avec ça. Nous sommes tous en connaturalité avec cette action de l'Esprit Saint, au plus intime de notre âme. On ne l'exprimerait pas comme ça, ça c'est sûr. Ça, je vous laissais une feuille blanche et puis je dis maintenant, je m'arrête, continuez. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix. Non, vous ne pourriez pas, ça j'en suis sûr. C'est pas la question. On ne pourrait pas le dire, mais on est en bonne naturalité. C'est-à-dire qu'on sent que ce qu'il dit est vrai, il y a en nous un lien avec la très sainte Trinité. Il y a en nous un lien avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Alors quand on dit ça ne nous dit plus rien, ça risque qu'on a un peu perdu. C'est ça qu'il souligne ici, qu'il y a une fidélité particulière des âmes qui ont été appelées à tout donner. Aussi, ne continue-t-il plus à les mortifier pour les faire avancer dans la perfection et les élever au-dessus de la poussière de la terre. Ces âmes ont manqué de cette constance et de cette énergie qu'elles auraient dû montrer. Il y a même beaucoup d'âmes qui ont le désir d'avancer et demandent à Dieu avec instance de les attirer à lui et de les élever à cet état de perfection. Mais dès que Dieu commence à leur faire sentir comme cela est nécessaire, les premières épreuves et mortifications, ces âmes reculent, elles se dérobent, elles fuient le chemin étroit qui mène à la vie, et elles restent le chemin large des consolations qui n'est que celui de leur perte. Aussi, de ce... Aussi, déjà, il commençait à les exaucer. Voilà pourquoi elles restent comme des vases inutiles. Elles veulent arriver à l'état des parfaits sans qu'on les fasse passer par le chemin des épreuves qui est celui des parfaits. Donc, ça, vous voyez, cette chose très très belle et précise, Saint Jean de la Croix. Nous ne pouvons pas acquérir ces grâces d'oraison. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, acquérir ces grâces de contemplation, ces grâces d'intimité avec Jésus. Absolument pas. Mais nous pouvons en avoir le désir.
Elle fuit le chemin étroit qui mène.
très simple. Les circonstances qui favorisent, c'est l'obéissance. C'est les initiatives que nous pouvons avoir dans des actes d'adoration. C'est les appels constants, la prière perpétuelle. Reconnaître que nous sommes des pauvres et nous avons besoin du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aussi, ne se met-elle pas dans des circonstances voulues pour recevoir de Dieu ce qu'elle lui demande, quand déjà il commence à les exaucer. Voilà pourquoi elle reste comme des vases inutiles. Elles veulent arriver à l'état d'imparfait sans qu'on les fasse passer par le chemin des épreuves, qui est celui des parfaits. Question de prudence, voyez. On n'accepte pas le chemin, donc la voie. Donc on n'accepte pas les circonstances, les moyens. Je crois que ça, c'est très important. Saint Jean de la Croix dit ça avec son expérience, c'est à la fin de sa vie. Et c'est très vrai. C'est que très souvent, c'est la peur. Très souvent, c'est un manque de véritable prudence. Elle refuse même de commencer à y entrer et d'accepter ces petites épreuves que tout le monde supporte ordinaire. On peut leur répondre par ce mot de Jérémie. Si en courant avec ceux qui vont à pied, vous éprouvez de la lassitude, comment pouvez-vous lutter de vitesse avec les coursiers? Si vous avez joui de la paix dans une terre de paix, que ferez-vous pour vous protéger contre l'orgueil du Jourdain? Cela veut dire, si les travaux qui sont l'apanage ordinaire de l'homme, ici-bas, vous paraissent, à cause de la lenteur de vos pas, tellement durs à supporter, que déjà, vous vous imaginez courir, comment pourrez-vous égaler la vitesse du cheval? On pense aux chevaux d'Apocalypse. Or, il s'agit ici de travaux qui sont au-dessus des épreuves ordinaires. Ils requièrent même une force et une agilité supérieures à celles de l'homme. Si vous n'avez pas voulu abandonner la paix et le repos de votre pays, c'est-à-dire de votre sensualité, si vous avez refusé de la combattre et de la mortifier en quoi que ce soit, je me demande comment vous voulez entrer dans les eaux impétueuses des tribulations et des peines d'esprit qui se ressentent plus à l'intérieur. Ô âme, dont le désir de marcher tranquille et consolé dans les voies spirituelles, si vous saviez combien il vous est nécessaire de souffrir pour arriver à cet état, et comment, sans cela, bien loin d'y parvenir, vous retourneriez en arrière, je vous l'assure, vous ne resterez jamais plus, donc vous ne rechercheriez jamais plus de consolation, ni de Dieu, ni des créatures. Vous embrasseriez plutôt la croix, et une fois là, vous n'y aurez d'autres ambitions que d'y boire le fiel et le vinaigre toujours pur. Et on voit très bien la véhémence de Saint Jean de la Croix. On ne peut pas supporter ça, par amour pour les âmes. Voir quelquefois un manque de prudence, un manque de force, un manque d'élan, fait que le premier élan, vers la contemplation, vers l'oraison, est comme détourné. C'est pas Dieu qui manque, c'est nous qui manquons à Dieu. C'est pas Dieu qui manque de miséricorde. Le désir du Christ, c'est de nous amener vers une vie contemplative. Et c'est de nous faire vivre une vie contemplative. Ça, c'est sûr. C'est l'exigence propre de notre vie chrétienne. C'est le désir profond du Christ. Mais c'est nous qui, pour des raisons humaines, de prudence, soit immédiatement. On ne peut plus avoir cette attirance directe du Père sur nous. On ne peut plus vivre de cette attirance. On vit de l'attitude réflexive sur nous. Souffrez donc dans la patience, la foi, quelques peines extérieures, et vous mériterez que Dieu abaisse ses regards sur vous pour purifier et sanctifier davantage votre âme à l'aide d'épreuves spirituelles plus intimes, et arriver par là à vous combler de biens plus intimes également. Il faut avoir rendu de grands services à Dieu, avoir manifesté beaucoup de patience et de constance, avoir enfin mené une vie et accompli des œuvres qui nous rendent agréables à ses yeux, pour qu'il nous accorde une grâce signalée comme celle des épreuves plus intérieures, afin de nous combler de dons et de récompenses. C'est ce qu'il fit à l'égard du saint homme Tobie. L'archange saint Raphaël lui dit en effet: c'est parce que vous avez été agréable à Dieu qu'il vous a fait cette faveur de vous envoyer une tentation pour vous éprouver et vous perfectionner davantage. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, ça. Se rappeler ça. Traduisons pas tout de suite, hein. Les tentations, c'est parce que j'ai manqué de vigilance. Non. Les tentations, c'est parce que vous avez pris de bonnes décisions d'être plus vertueux et d'être meilleur. Parce que lorsque nous sommes dans la médiocrité, le démon ne nous tracasse plus. C'est une façon très élégante d'éviter d'être tracassé par le démon. Si vous êtes dans la médiocrité, vous comprenez bien, il n'a pas de temps à perdre, le démon. Il est intelligent. Alors quand il voit la médiocrité, il serait bien insuffisant. Pas besoin d'être là. Il y a des petits démons. Les petits démons de sensualité, les petits démons d'autonomie, les petits démons d'originalité. Vous voyez, c'est tous ces petits démons qui nous maintiennent comme ça, sans qu'il y ait cette volonté profonde de tendre vers la contemplation du Père, ou de Jésus, ou de Marie. Donc, aussi, dit la Sainte Écriture, une fois l'épreuve terminée, il passa le reste de sa vie dans la joie. Nous voyons qu'il en fut absolument de même pour le saint homme Job. Dieu a approuvé ses œuvres devant les bons et les mauvais esprits. Et immédiatement après, il lui a fait la grâce de lui envoyer ces terribles épreuves dont il nous donne le récit, afin de l'exalter ensuite beaucoup plus en lui, beaucoup plus en lui prodiguant toutes sortes de biens spirituels et temporels. Le Père châtie ses enfants, qui aiment bien châtier, et il châtie pour aller plus loin. Oui, c'est très important de se rappeler cela, et que ce n'est pas du tout un signe que quelque chose ne va pas, parce qu'autrement ça vole. Telle est la conduite de Dieu envers ceux qu'il veut favoriser de la perfection la plus haute. Il veut les éprouver. Il les laisse dans l'épreuve pour les élever ensuite autant que possible et les amener à l'union avec la sagesse divine, qui, selon David, est un argent éprouvé par le feu, purifié dans le creuset de notre chair et purifié jusqu'à
tu envoies ces épreuves et permets ces épreuves et ces luttes, c'est parce que tu le désires qu'on fasse le purgatoire sur la terre ou qu'on paie, ce qui arrive très souvent pour les apôtres, pour ceux qu'ils rencontrent sur la route. Et on peut payer d'avance, c'est ça qui est merveilleux. Et Dieu d'avance sait très bien qu'on aura, et bien il nous fait payer ça d'avance. Et alors on comprendra ordinairement plus tard, quand la providence nous mettra devant certaines situations, on verra qu'il y a eu une action prodigieuse de l'Esprit Saint. Il ne faut pas croire que c'est chronologiquement même date. Les gens sont impressionnés de ça. Très bien, laissez-les. Mais ça peut être des coïncidences, c'est pas toujours divin. Ce qui est sûr, c'est que Dieu peut permettre à un apôtre de porter pour ceux qu'il rencontrera sur sa route. C'est même normal, puisque c'est par là que la paternité s'exerce. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de paternité. Un frère aide bien son frère, mais pas de la même façon. Tandis qu'un père porte pour ses enfants. Et il les délie. Il les purifie. Celle-ci est pour l'âme en cette vie, quelle que soit son union avec Dieu. Comme cet argent purifié dont parle David, tandis que dans l'autre vie, elle sera comme de l'or. Il est donc très important pour l'âme d'avoir beaucoup de patience et de constance au milieu de toutes les tribulations ou épreuves que Dieu lui envoie. Qu'elles soient intérieures ou extérieures, spirituelles ou corporelles, grandes ou petites, il faut les accepter toutes comme venant de sa main pour notre bien et la guérison de notre âme. On ne doit pas non plus les fuir, puisqu'elles sont le remède de nos maux. Mais on suivra le conseil du sage qui dit « Si l'esprit de celui qui a tout pouvoir descend sur vous, ne vous éloignez pas de votre place, c'est-à-dire de cette épreuve qu'il vous envoie. La guérison, ajoute-t-il, fera cesser de très grands péchés et coupera même vos habitudes mauvaises. » qui sont la racine de vos péchés et de vos imperfections. Car les combats contre les épreuves, les angoisses, les tentations éteignent les habitudes mauvaises et imparfaites de l'âme. Il la purifie et la fortifie.